Vous écoutez Les Petits Caractères, le balado de Option Consommateur qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Ici Marianne Spear, j'ai l'honneur d'être votre animatrice pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de Sarah-Ève Levac, conseillère juridique et avocate chez Option Consommateur. Allô Sarah-Ève?
Bonjour Marianne.
Ça va bien?
Oui, ça va bien toi?
Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que c'est moi qui ai proposé, puis tu as accepté avec volontiers de nous monter un dossier sur tout ça, fait que je suis bien heureuse. C'est sur le marketing, multi-level marketing ou commercialisation à paliers multiples. J'avais proposé le sujet parce que pendant le temps des fêtes, ben on dirait que je me suis souvenue que ça existait. Parce que là, des membres de la famille plus éloignés, des amis que ça fait longtemps que tu as vu, que tu te rends compte que pendant le temps des fêtes, il y a eu du réseautage qui s'est fait. Puis là, ils sont rendus dans des organisations que tu n'y en attendais pas. Puis là, ils te proposent de rentrer dans cette organisation-là aussi. Tu te demandes un peu ça sort de où. Puis je me suis dit, ce serait le fun de savoir qu'est-ce qu'une avocate et conseillère juridique pensent de tout ça.
C'est ça, il y a une grande tante qui t'a parlé d'un thé miracle qui avait changé sa vie. Puis là, oups, elle avait des échantillons à te donner. Puis là, elle en vendait aussi.
Exactement.
C'est ça, c'est exactement. C'est de la commercialisation à paliers multiples ou multi-level marketing. On parle de, je donnais l'exemple du thé, mais c'est plusieurs produits. Ça peut être des suppléments alimentaires, ça peut être des produits cosmétiques, ça peut être des services d'entraînement. Et t'as dit que tu te souvenais que ça existait, mais c'est pas nouveau. Jadis, on organisait des soirées pour vendre des plans en plastique réutilisables. Il y avait une amie dans le quartier qui nous passait un dépliant avec des produits cosmétiques, là, puis on pouvait faire des commandes. Donc, c'est pas un phénomène qui est nouveau, ce type-là d'entreprise-là.
Puis là, avec le temps des fêtes, puis la nouvelle année, c'est comme un assez bon moment pour parler de tous les produits dont tu viens de me parler, des trucs d'entraînement, des remises en forme, de la nourriture santé. Ça concorde pas mal avec les objectifs que les gens se donnent en début d'année.
Puis, c'est ça. Donc, la commercialisation à paliers multiples, c'est un système, un type d'entreprise qui va fonctionner avec des distributeurs qui, eux ou elles, vont distribuer les produits à une clientèle, dans le fond, qui bâtissent eux-mêmes. Là, je dis « eux », mais en général, les distributeurs, ça va être des femmes, donc qui vont faire qui vont se devenir distributeurs pour faire cette vente de produits-là.
Ouais, puis c'est pour ça aussi que j'avais proposé le sujet, parce que je trouve ça dommage un peu que ce soit comme cette clientèle-là qui est visée pour rentrer dans ces organisations-là. J'ai beaucoup, en fait, de gens dans mon entourage qui sont des nouveaux parents, des nouvelles mamans qui se sentent isolées. Puis là, tu sais, de rentrer dans un groupe qui te sollicite beaucoup, ça peut être le fun quand tu commences à te sentir isolée puis avoir de moins en moins d'entourage autour de toi parce que tu es nouvellement parent. Peut-être que les autres sont pas rendus là.
Il y a effectivement un aspect social à tout ce fonctionnement-là parce que les distributeurs, distributrices vont souvent se former des groupes puis se soutenir entre elles. Fait qu'il y a tout un aspect de devoir entrer en contact avec des clients potentiels. Donc, il y a vraiment un aspect social aussi à cette commercialisation à paliers multiples. Parce qu'on va miser aussi beaucoup sur la proximité. T'sais, c'est des amis, c'est ta tante, c'est ta belle-sœur qui va te parler de produits. Mais c'est un type d'entreprise qui peut permettre à l'entreprise d'économiser plusieurs coûts qu'un commerçant qui a pignon sur rue, dans le fond, traditionnel, aurait à débourser.
J'en parle comme si c'était négatif, mais justement, pourquoi est-ce que ça peut être négatif pour les personnes qui rentrent dans ces organisations-là?
On va en parler
plus tard un peu
des risques, dans le fond, de ce qui se passe là, pour les distributeurs, par contre.
Fait que là, ce que tu m'expliquais, c'est plus pourquoi est-ce que ce type de fonctionnement-là existe? Pourquoi est-ce qu'une entreprise a avantage à proposer le plan de MLM?
Mais c'est ça. Ce type d'entreprise-là va pouvoir, en fait, économiser sur plusieurs coûts, comme je disais, que des magasins qui ont pignon sur rue, des entreprises plus traditionnelles vont avoir à débourser. C'est pour ça que ça peut être un système qui est intéressant pour des entreprises. T'as pas besoin de payer de publicité, par exemple. En tout cas, tu vas sauver des frais de publicité parce que c'est les distributeurs qui vont faire la publicité de ton produit et approcher la clientèle. Tu vas aussi pouvoir éviter de payer des frais pour avoir des infrastructures, des magasins. T'as pas nécessairement besoin d'avoir pignon sur rue quand c'est les distributeurs qui font directement la vente des produits. Puis aussi, les distributeurs ne sont pas rémunérés dans le sens qu'ils n'ont pas un salaire qui leur est versé pour le travail qu'elles font pour vendre les produits. Ça va plutôt fonctionner par des revenus, un pourcentage de revenus sur les ventes effectuées ou sur les ventes effectuées par l'équipe que les distributeurs vont former en recrutant d'autres personnes pour faire de la distribution de produits.
Mais en quoi est-ce que c'est différent d'être comme un représentant tout court? C'est un représentant de, je sais pas, là, d'outils pour mon chum est plombier, d'outils de plomberie ouais. sur la route qui s'en va voir les différents plombiers. Tu sais, en quoi c'est différent, en fait?
Bien, si tu es plombier, dans le fond, c'est ton entreprise, puis soit que tu vas être salarié ou ça va être ton entreprise, donc les revenus te viennent à toi, tandis que si tu es un représentant dans une commercialisation à palier multiple, là, tu n'es pas habituellement salarié par l'entreprise. Donc, tu n'as pas un revenu qui vient pour le nombre d'heures que tu fais. Le revenu que tu vas avoir, c'est l'entreprise qui va te verser une partie des ventes que tu vas avoir fait sur les produits.
OK. Parfait. Je comprends mieux. Merci beaucoup. Puis, c'est quoi la distinction, sinon, entre le marketing multiniveau et la vente pyramidale?
Oui, ça, c'est une question classique quand on parle de commercialisation à palier multiple. Si on parle de distributeurs qui doivent recruter des distributeurs pour vendre des produits, est-ce que c'est de la vente pyramidale, pardon? Donc, c'est pas parce que ça ressemble à une certaine forme polygonale que c'est de la vente pyramidale. Hein? La vente pyramidale est interdite. Hein? C'est passible, en fait, de poursuites criminelles. Et la commercialisation à palier multiple, ce n'est pas interdit. La distinction principale, en fait, entre la vente pyramidale et la commercialisation à palier multiple, c'est que quand on parle de vente pyramidale, là, il n'y a pas de produit qui est effectivement vendu à des consommateurs. La vente pyramidale, ça va fonctionner ça va être axé sur le recrutement de personnes. Donc, on va demander à une personne de donner une somme d'argent pour avoir l'opportunité de rentrer dans l'entreprise, et cette personne-là va devoir recruter ensuite d'autres personnes qui vont donner une contribution pour rentrer dans l'entreprise. Et dans le fait, il n'y a pas de produit qui est vendu. C'est basé un peu sur du vide. Et la pyramide va finir par s'effondrer. Okay. Justement, si chaque personne, par exemple, doit recruter 8 personnes, qui doivent recruter 8 personnes, c'est un système qui est insoutenable parce qu'au bout d'une douzaine de paliers, ben, on aurait recruté la population mondiale entière. Donc, c'est un système qui ne peut pas fonctionner là, sur le long terme. En fait, c'est interdit donc de demander une contribution ou de faire payer un distributeur pour rentrer dans l'entreprise.
Okay.
Il y a une exception dont on va parler par la suite. Donc, ça, c'est une distinction. Là. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer juste pour être, par exemple, un membre d'une entreprise à commercialisation à palier multiple.
Okay.
Mais ce qui peut arriver, par contre, c'est que des distributeurs peuvent voir leur commission sur les ventes faites retenues jusqu'au moment où ils vont avoir effectivement recruté des distributeurs.
Okay.
Ça, c'est des choses qui peuvent arriver.
Puis
dans
ça, c'est légal?
C'est une... En fait, c'est pas...
Zone grise?
C'est une zone grise, là, je dirais, là, parce que effectivement, on peut pas demander de l'argent à quelqu'un pour participer, mais on peut... Il y en a qui vont pratiquer le fait de retenir les commissions jusqu'à ce que la personne ait recruté un ou des distributeurs selon ce qui est prévu par l'entreprise.
Puis c'est où qu'ils se ressemblent?
Oui, c'est ça. Là où une MLM pourrait...
Point d'interrogation.
pourrait s'apparenter à une vente qui a une structure qui ressemble à une structure architecturale très prisée par les pharaons, c'est si on met l'accent sur le recrutement presque essentiellement. Donc, c'est déjà arrivé aux États-Unis. Il y a une MLM qui s'est fait rappeler à l'ordre parce qu'elle mettait l'accent plus sur le recrutement de distributeurs que sur la vente de produits. Et on lui a demandé de revoir donc, le fonctionnement de l'entreprise. Et la Federal Trade Commission, dans cette circonstance-là, avait fait bien attention de ne pas décrire la situation comme étant de la vente pyramidale, mais elle avait rappelé l'entreprise à l'ordre là, de reviser ses façons de faire.
Je comprends. C'est quoi les façons de faire que les MLM doivent suivre? Mm-hmm.
C'est ça. Donc, il y a certaines règles qui vont s'appliquer à la commercialisation à palier multiple. La première chose, on en a parlé, c'est que c'est interdit de, dans le fond, rémunérer quelqu'un seulement pour avoir recruté des gens, de mettre l'accent sur le recrutement uniquement dans l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est également, on en a glissé un mot, c'est le fait de devoir payer pour participer à l'entreprise. L'exception à ça, c'est que souvent, les distributeurs vont devoir s'acheter une trousse de départ pour faire de la distribution. La trousse de départ va contenir des échantillons de produits à distribuer à des clients potentiels également là, des dépliants sur comment faire de la vente, comment parler des produits de l'entreprise. Et cette trousse-là ne doit pas être vendue plus cher au distributeur que le prix coûtant. Donc, c'est le moment où on peut demander de l'argent au distributeur, mais autrement, on ne doit pas demander là, une contribution pour faire partie de l'entreprise.
OK. Fait que ce stock de départ-là, il en vaut 500 $, ben ils ne peuvent pas le vendre 1000.
Non, c'est ça. Okay. Si le prix coûtant est 500 $, il faut que ça soit vendu 500 $ au distributeur.
Fait que je comprends que souvent, ils se font demander d'acheter une trousse de départ pour participer. Est-ce qu'il y a des achats qui seraient interdits comme exigence de participation?
Oui, en fait, sauf la trousse de départ, c'est interdit de demander à un distributeur de faire des achats comme condition de pour participer à la MLM. Pardon. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des distributeurs qui vont acheter des stocks de produits pour garder leur place dans l'entreprise. Parce que habituellement, une entreprise de commercialisation à paliers multiples, c'est dans le nom, il y a des palier. Donc, pour augmenter les avantages qu'on a, le pourcentage qu'on reçoit sur les ventes qu'on a effectuées ou obtenir des bonis, bien, il faut monter là, dans ces paliers-là de l'entreprise. Donc, on va commencer, par exemple, en étant un distributeur, puis là, on va devenir un distributeur rubis, un distributeur diamant, un distributeur double platinum. Mais pour ça, il faut avoir un certain volume de vente qu'on doit conserver. Donc, il y a des distributeurs qui vont faire des achats de stocks de produits pour garder leur place dans l'entreprise. Et en fait, il y a des distributeurs qui rapportent parfois même perdre de l'argent en participant aux entreprises de commercialisation à paliers multiples en faisant ces achats de produits-là pour conserver leur place.
OK. Donc, ils achètent les produits pour eux-mêmes pour garder leur palier oui. actif, oui. en fait. Là, garder leur place de palier puis pas descendre
oui.
de palier.
Oui.
C'est des paliers que je parle. OK, parfait. Puis si ça nous intéresse quand même d'embarquer dans ce genre d'organisation, c'est quoi les questions qu'on doit se poser?
Oui, donc les questions à se poser, c'est dans le fond, qu'est-ce qui m'intéresse si je veux travailler, enfin, être distributeur dans une entreprise de commercialisation à paliers multiples? Qu'est-ce que je recherche? Donc, combien de temps j'ai à investir dans cette entreprise-là? Parce que ça prend beaucoup de temps de faire la distribution de produits, d'aller chercher sa clientèle, de faire la publicité pour ses produits. On peut se demander combien je m'attends à avoir de revenus, combien j'espère avoir de revenus en faisant ça. Il y a certaines personnes qui le font pour avoir un revenu d'appoint, pour avoir des rabais sur des produits qu'elles aiment ou qu'ils aiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la rémunération, une entreprise de commercialisation à palier multiple doit nous informer du revenu moyen, en fait, du revenu normal auquel on peut s'attendre en devenant un distributeur. Donc, l'entreprise peut nous parler de personnes qui, dans le fond, ont eu beaucoup de succès, ont gagné beaucoup d'argent en faisant de la vente de produits, mais elle doit nous donner une indication du revenu normal auquel on pourrait s'attendre. Par exemple, elle pourrait déclarer que 60 % des distributeurs vont faire entre 1 000 et 5 000 $, entre 0 et 5 000 $ par année, mais aussi nous dire que seulement moins de 1 % des distributeurs peuvent gagner plus de 50 000 par année. Donc, c'est quelque chose à regarder pour avoir une idée là, du revenu auquel on peut s'attendre si on veut devenir distributeur.
Puis dans les questions qu'on doit se poser, je pense qu'il y a des questions aussi au niveau de notre aspect social parce qu'on va être entouré d'autres distributeurs. Puis aussi, on nous demande de faire du recrutement. Fait que peut-être ça va avoir un effet sur notre entourage parce que souvent, on recrute notre entourage.
Oui, c'est un point sur lequel les MLM peuvent mettre l'accent. En fait, on va recruter une équipe, on va pouvoir avoir une équipe qui nous soutient. Parfois, il va y avoir des rencontres. Donc, ça devient un groupe social. Là. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une entreprise dont le but est d'aller faire des profits, dans le fond, en distribuant des profits. Donc, il faut toujours se poser la question, combien de temps je vais investir? Qu'est-ce que je suis prêt à investir quand il y a des risques, justement, là, comme on disait, que certains distributeurs perdaient de l'argent en acheter des
Mais
stocks
oui.
là,
de profit. Puis tu sais, même, je mettrais peut-être une astérisque sur le mot « investir » parce qu'on ne sait pas nécessairement c'est quoi la finalité de tout ça. Ben, merci beaucoup, Sarah Eve. C'est un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. « Pour la chronique d'aujourd'hui, on reçoit une nouvelle intervenante à Options consommateurs. Elle est avocate, conseillère juridique et budgétaire. C'est Samantha H. Sanon. Bonjour Samantha.
Bonjour Marianne, ça va bien?
Ça va bien, merci toi.
Super, merci.
Est-ce que tu es stressée un peu pour la première chronique?
Oui, un peu.
Mais ça va bien aller, tu as choisi un excellent sujet, les erreurs de prix en ligne.
Exactement.
Qu'est-ce que tu veux dire plus précisément?
En fait, une erreur de prix est observée lorsqu'un produit ou un service est affiché à un prix incorrect sur un site web. Et ce phénomène a tendance à évoluer de plus en plus vu que les consommateurs ont tendance à faire des achats beaucoup plus en ligne ces derniers temps.
Mm-hmm. Puis en quoi est-ce que le consommateur en général, il réagit comment quand il y a une erreur de prix? Est-ce qu'il s'en rend compte tout simplement?
En fait, la réaction des consommateurs face aux erreurs de prix en ligne est très diversifiée. C'est-à-dire que dans une recherche qui a été faite, qui a été publiée par Options consommateurs en 2018, sur les erreurs de prix en ligne, des personnes qui ont été sondées ont dit que elles auraient préféré que les entreprises honorent leurs commandes.
Okay.
Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est que certains consommateurs ont trouvé cela frustrant du fait qu'ils n'avaient pas reçu le produit qu'ils avaient commandé. Et aussi, ils trouvaient injuste que les commerçants aient le droit de changer le prix du produit à leur gré, tandis qu'eux, ils se trouvaient impuissants face à cette situation-là. Et puis, il y a d'autres consommateurs qui ont eu une perception plus positive parce que, notamment, ils ont eu une compensation quand le commerçant a annulé la commande en ligne.
OK. Fait que de ce que je comprends, quand il y a une erreur de prix, le commerçant, ce qu'il fait, c'est qu'il annule la commande?
Les commerçants ont tendance à réagir de deux façons. Certaines fois, ils annulent la commande et d'autres fois, ils préfèrent absorber le coût, notamment pour fidéliser leur client.
Pourrais-tu me donner un exemple d'erreur de prix en ligne?
Par exemple, si un bien est affiché à $12.99 alors que le bien valait $129.99. Donc cela constitue une erreur de prix en ligne. C'est juste une question de virgule mal placée.
OK. Fait que c'est à ce moment-là que le commerçant réagit de deux façons, soit qu'il va annuler la commande ou il va décider d'absorber la perte. Puis là, j'imagine que ça va dépendre de la gravité de l'erreur de prix.
Exactement.
OK, donc ça, c'est les deux choix qui s'offrent au commerçant.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il pourrait, au contraire, décider de juste obliger le consommateur à payer le vrai prix du bien?
Non, il ne peut pas obliger le consommateur à payer le vrai prix du bien. En fait, il faut savoir qu'au Québec, les représentations fausses trompeuses sont interdites. C'est-à-dire que un commerçant ne peut pas, dans un message publicitaire, donner des renseignements faux, trompeurs ou encore passer sous silence un fait qui est important.
OK. Donc, quand on parle d'erreur de prix, c'est vraiment des erreurs de bonne foi, en fait, des fautes de frappe, comme tu parlais tout à l'heure.
Oui, mais on peut dire que ce sont des erreurs inexcusables, en fait, qu'on peut dire selon la loi, parce que le commerçant a sous son contrôle un ensemble de paramètres. Par exemple, c'est lui qui choisit les conditions d'utilisation, les conditions de vente. C'est lui qui choisit quel produit mettre en vente et le prix aussi auquel il va mettre le produit en vente. Donc, c'est une erreur inexcusable et on peut pas, comme pour cela, annuler la commande.
Mais pourtant, il y en a qui le font.
Oui, il y en a qui le font,
okay.
Malheureusement.
OK, mais il n'y a pas encore de loi qui entoure ça puis qui obligerait le commerçant à donner le bien quand même.
Non.
OK, alors, de ce que tu viens de me dire, on interdit les représentations fausses ou trompeuses, mais les erreurs de prix, c'en est. Pourquoi? Est-ce que finalement, il y en a quand même?
OK, oui, parce que lorsqu'il y a une erreur de prix, il y a pratiquement deux fautes qui sont commises. La première faute, c'est la représentation fausse trompeuse. Et la seconde, c'est la tentative de vendre à un prix supérieur à celui qui était énoncé. Parce que il faut savoir que quand on affiche un bien, on induit le consommateur à faire un achat en lui présentant à tort, bien sûr, un prix alléchant alors que c'est pas vraiment le cas.
C'est une réaction parce que, bon, on voit un prix en ligne, puis là, on a une émotion. Ah, ça, ça serait dans mon budget, puis ça m'intéresserait. Fait que je comprends.
Exactement. Et aussi, on peut dire que dans ce phénomène-là, il y a juste une petite fraction de gens qui sont allés loin, c'est-à-dire qui sont allés à la cour pour que le commerçant puisse honorer la commande. Certaines décisions disaient, par exemple, que quand un commerçant annulait une vente entachée d'une erreur d'affichage de prix, le commerçant n'exigeait pas un prix supérieur à celui qui était énoncé. Moi, je suis pas d'accord avec ces décisions-là parce que quand une vente est annulée, si le consommateur veut absolument ce produit-là, il devra quand même, il sera forcé de payer le prix corrigé, c'est-à-dire le prix qui sera plus élevé qu'initialement annoncé. Donc, cela reviendrait à faire indirectement ce que l'on ne peut pas faire directement. Et il y a d'autres décisions qui sont récentes, qui ont été favorables aux consommateurs, dans lesquelles le tribunal avait décidé que le commerçant devait quand même honorer le prix et absorber le coût de son erreur.
OK. Donc, il y a eu des décisions qui étaient bonnes selon toi, et puis il y en a d'autres que ce serait à retravailler.
Là. Exactement.
C'est pas le consommateur qui a gagné.
Dans les décisions récentes, ce sont les consommateurs qui ont gagné, mais les décisions ne suivent pas toutes une ligne droite.
OK. Puis est-ce que tu auras un autre exemple, ou est-ce que j'ai donné tantôt un exemple avec une erreur de prix, mais est-ce que tu pourrais m'en donner un ou est-ce que finalement la commande est annulée?
Oui, ça m'est arrivé il y a quelques années de cela. J'avais vu sur le site d'un magasin bien connu des lentilles de caméra. Ben, j'avais passé la commande et puis j'ai eu la confirmation sur mon courriel. L'argent a été débité sur mon compte, sur ma carte de crédit. Et puis, malheureusement, quelques jours plus tard, le commerçant m'a écrit pour me dire que finalement, il n'avait pas la lentille en stock. Or, le commerçant n'avait jamais précisé sur son site internet que la quantité était limitée, ni même indiqué combien de lentilles de caméra qui lui restaient en stock. Cela constitue, à mon avis, une pratique interdite. Donc, moi, dans mon cas, ce que j'ai fait, comme c'était plus qu'un désir, qu'un besoin, j'ai laissé faire. Mais j'aurais pu faire une demande à la cour pour qu'un juge ordonne l'exécution, c'est-à-dire que le commerçant m'envoie absolument la lentille que j'avais commandée et j'aurais pu demander aussi des dommages et intérêts si j'arrivais à prouver l'étendue de mon préjudice et je pourrais porter plainte à l'Office de la protection du consommateur, l'OPC.
Ben, c'est excellent. Merci beaucoup, Samantha, pour toutes ces informations-là.
Merci.
Merci à la maison de nous avoir écoutés. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous dis à un prochain épisode des Petits Caractères.